Donc, avant le repas, on avait laissé Esther et Mardoché dans une situation bien périlleuse. Ils venaient d'apprendre que le peuple juif allait être exterminé, qu'il y avait un plan diabolique pour anéantir tout un peuple. Alors, je ne sais pas vous, mais quand j'étais plus jeune, parce que maintenant je suis plus moins jeune, ou plus, je suis plus jeune, enfin bref. Quand on allait au cinéma, les films étaient arrêtés au milieu. Et un des premiers souvenirs, c'était d'aller voir le film, alors je vais dire Chitty Chitty Bang Bang, alors je ne sais pas s'il y en a d'autres vous qui le connaissent, c'est l'histoire, je vois les sourires de certains, c'est l'histoire du... Ben, c'est pas une famille, enfin bref, des personnes qui aient une voiture qui s'appelle Chitty Chitty Bang Bang et qui a été retapée, rénovée. C'est une ancienne voiture. Et à un moment donné, ils doivent s'échapper du méchant et la voiture plonge d'une falaise. Et c'était à ce moment-là que l'intervalle est arrivé. Les rideaux se sont fermés parce qu'à l'époque, il y avait des rideaux au cinéma. Je vous dis ça aux jeunes parce que je sais qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Il y avait des rideaux qui fermaient. Oh, mais qu'est-ce qui allait se passer? Ils étaient en train de plonger. Et là, il fallait aller chercher une glace. Sauf que mes parents ne voulaient jamais m'acheter une glace. Alors, là, on vient de laisser Mardoché et Esther un peu comme ça, plongeant d'une falaise. Mais, dans notre histoire de Chitty Chitty Bang Bang, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, heureusement, ils sont sauvés. La voiture déploie les ailes qui ont été rajoutées comme par hasard par celui qui a retapé la voiture. Donc, nos héros sont sauvés d'une mort certaine. Bon, papa, regardez, tu dis bang bang plongé 3000 fois. C'était un peu à la James Bond, hein, c'était les gadgets qui avaient été rajoutés à la voiture. Alors, nous aussi, avec Mardoché et Esther, nous sommes un peu en chute libre. Et d'où viendront les ailes nécessaires pour s'échapper de ce danger imminent? Alors, face à l'ultimatum de Mardoché, Esther prend une décision qui va bouleverser sa vie et changer le cours de l'histoire. Elle dit oui à la requête de Mardoché, qui était de se présenter devant le roi sans y être convoquée. Alors, elle demande aussitôt, même dans la version, c'est marqué « ordonner », un jeûne. Sous-entendu et prière, parce que les deux étaient toujours liés. Alors, ce n'était pas chacun dans son coin, c'était en groupe. Donc, le peuple en dehors, avec Mardoché, allait se réunir, et elle, de son côté, avec son entourage, elle allait s'entourer de personnes de confiance 3 jours pour plaider la faveur et l'intervention de Dieu, pour demander sa sagesse et ses paroles. 3 jours de jeûne. Sommes-nous aussi assidus lorsque nous avons une décision importante à prendre, surtout une décision qui touche à notre Église, notre communauté, notre témoignage, l'œuvre dans laquelle je travaille, où une action est envisagée? On a vraiment besoin de la sagesse et la direction de Dieu. Alors là, à ce moment-là, je dois admettre que je ne suis pas de celles qui jeûnent régulièrement. Je n'ai jamais jeûné 3 jours pour prier. J'ai jeûné, mais pas pour prier. C'était un peu imposé. Alors, peut-être dans votre église, vous avez l'habitude de jeûner. Et je vous félicite. Mais moi, je viens d'un arrière-plan et peut-être aussi une famille d'église qui ne le fait pas très souvent. On a fait pour quelqu'un qui est malade. On a fait quand on a changé de bâtiment. Mais ce n'est pas rentré dans les mœurs. Et je dis ça à ma honte. Parce que je pense que c'est quelque chose que le Seigneur préconise. Mais je pense aussi que Dieu se laisse trouver dans chaque moment qu'on consacre à lui. On n'a pas besoin nécessairement de 3 jours de jeûne pour entrer en contact avec notre Père, heureusement. Mais toute occasion que l'on met à part exprès pour l'écouter, il vient à notre rencontre. Et c'est ma prière aujourd'hui que cette journée mise à part que vous avez réservée dans vos emplois de temps chargés puisse être l'occasion où vous êtes vraiment à l'écoute de ce que Dieu a à vous dire. Vous allez le rencontrer. J'espère que vous l'avez rencontré ce matin. Vous allez de nouveau le rencontrer cet après-midi. Il nous dit dans sa parole, en Hébreux 4, « Approchons-nous donc du trône de Dieu, du Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. » Il est très important ici de noter qu'il parle du bon moment. Nous n'avons pas toujours la même notion de temps que Dieu. Et comme nous avons souligné ce matin, il est souverain et seul lui sait quel est le bon moment. Notre incompréhension devant le manque d'intervention apparente du Seigneur est peut-être dû au fait que justement nous ne reconnaissons pas le bon moment comme tel. Et nous attendons une intervention plus rapide, plus visible. Dans notre titre, nous parlons de Dieu à l'œuvre dans les coulisses. Mais si nous jouons une pièce de théâtre, et celui qui est en charge des changements de décor, comme on a vu tout à l'heure, décide de mettre le décor de la scène 4 pendant la scène 2, nous serons bien embêtés, voire confus. Faisons confiance à notre Père. Il connaît la pièce parfaitement. Il gère les projecteurs. Il gère le fond et même le texte, car il est l'écrivain et il est aussi souffleur. Il nous souffle les paroles quand on les oublie. Donc Esther est prête à mourir pour tenter de sauver son peuple. Je ne sais pas si quelqu'un ici a dû faire face à une telle menace, une telle épreuve, où on attend de nous quelque chose qui sort du commun, où la responsabilité pèse sur nos épaules. Mais même si ce n'est pas aussi grave qu'un génocide quand même, parfois ce qu'on demande requiert une mort à moi-même, à mes désirs, plutôt personnels. Égoïste. Et la situation demande que je me mette en dessous des autres plutôt que d'exiger que mes droits soient respectés. On voit en Philippiens chapitre 2 « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Vous arrivez, vous? C'est dur, hein? Qu'est-ce que c'est dur? C'est plus facile quand on est remercié après. Mais quand on n'est pas remercié, ou quand on est pris à la légère, ou qu'on n'est même pas vu, c'est dur. On doit avaler un bon coup, prier, mais ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de le faire. Considérer les autres comme supérieurs avec toute humilité. Esther, la reine, gavée de luxe et serviteur attentionné, est prête à renoncer à tout cela, à tous ses privilèges, pour répondre à ce danger imminent. Suite à ces 3 jours de jeûne, un plan se met en place et un plan inspiré de Dieu. Elle fait confiance à Dieu. Elle surmonte donc sa peur et ose se présenter de loin devant le roi Assuérus. Et Dieu est fidèle en la chanté et fait en sorte que ce dernier, ce roi, la laisse entrer dans sa présence pour qu'elle puisse soumettre sa requête. Le premier obstacle, c'est-à-dire ce risque de mort et de refus, est franchi. Merci Seigneur. Dieu ouvre la porte pour qu'Esther puisse soumettre sa requête au roi. Alors, je me pose la question de ce que j'aurais fait à sa place. Après 3 jours intenses de jeûne et de prière, le moment fatidique est arrivé. Quand nous avons quelque chose sur le cœur et on a ruminé longtemps la situation, lorsque le moment tant attendu, voire redouté, arrive pour exprimer le fond du problème, on peut être tenté de tout déballer d'un coup, de se débarrasser de ce fardeau si pesant. Et la cocotte minute explose. Et une diarrhée verbale. Nous avons vécu cela récemment et je peux vous dire qu'un tel emportement peut causer des dégâts et des blessures. Réfléchissons avant de parler. Même si notre cause est juste, il y a sûrement des manières de transmettre notre ressenti sans blesser, sans irriter, sans énerver la personne, au point où elle ne veut plus écouter. Esther a dû acquérir une certaine sagesse. Dieu a répondu à sa prière, comme il nous l'assure en Jacques. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous gracieusement et sans faire de reproche. Si on a des choses à dire, demandons la sagesse à Dieu avant de... On a besoin de sagesse. Donc du coup, Esther ne se précipite pas de raconter toute l'histoire du méchant Haman. Au moment où le roi la fait entrer et lui demande quelle est sa requête, elle ne crie pas « Oh roi, ce méchant loup Haman, votre conseiller, il veut me tuer et tout mon peuple et... » Non, elle est diplomate et lance simplement une invitation pour venir chez elle pour dîner avec Haman. Pourtant, on lit dans le chapitre 5 d'Esther que le roi semblait prêt à lui donner tout ce qu'elle voulait, jusqu'à la moitié de son empire, même si c'était figuratif, mais il était vraiment ouvert à tout donner. Je constate aujourd'hui, alors peut-être je vais faire des ennemis, que les Français, mais ce n'est pas que les Français, hein, je vous le dis, peuvent parfois manquer de diplomatie. Je me rappelle quand j'étais à Marseille, j'avais des personnes qui me disaient « Ah ben je suis franc, hein, je suis comme ça, je vais le dire. » Et on le prend en plein figure. Donc, corrigez-moi si j'ai tort, mais j'ai eu quelques expériences comme ça. Les Britanniques sont un peu plus sur le retenu. Pas toujours, hein, il y en a qui, je ne vais pas dire le mot, mais ils ont quand même une bouche assez grande. Mais cette manque de tact et de recul peut avoir pour conséquence une attitude « je fonce, tête baissée ». Je dis ce que j'ai à dire et tant pis pour les répercussions. Donc on n'a qu'à écouter les paroles de la Marseillaise pour voir combien les Français sont sanguins. Alors, je rajoute, je suis depuis 3 semaines française. J'ai réussi enfin, après 33 ans en France, à acquérir la nationalité française. Donc, maintenant, je me mets dans le même que vous. Je vais chanter la Marseillaise. C'est mon hymne national. Même si je ne suis pas tout à fait d'accord qu'on doit égorger les personnes pour avoir leur sang dans les sillons. Voilà. Alors, la sagesse. L'auteur de l'Ecclésiaste a plusieurs choses à dire par rapport à la sagesse. Plus on multiplie les paroles, plus on fait augmenter la frustration. Plus les gens parlent, plus on dit « Ouh, stop, j'en peux plus. » Comme j'ai dit ce matin, il y a un temps pour garder le silence et un temps pour parler. Faut-il savoir lequel? Là, on aura besoin de la sagesse pour savoir est-ce que c'est le moment de dire ou de ne pas dire. La sagesse vaut mieux que la force. C'est important. Et puis, finalement, la voix du sage qui s'exprime dans le calme est plus écoutée que les cris d'un chef parmi les insensés. Esther a choisi d'être calme, d'être diplomate et de se taire aussi à ce moment-là et attendre le bon moment. Que nous soyons comme Esther parfois. Je suis plus sur le retenu, c'est mon caractère, donc je ne vais pas nécessairement sortir, malheureusement parfois, parce que je suis tellement sur le retenu que quand ça va sortir, ça va sortir. Et là, ce n'est pas bon non plus, parce que je craque et je deviens un peu comme la cocotte minute. Mais il faut savoir quand. Et là, il faut toujours être à l'écoute de Dieu. Alors, gardons cette idée en tête lorsque nous sommes tentés de réagir sans réfléchir et noyer notre auditeur d'un flot de mots qui n'avance guère la position de nous défendant. Donc, ce soir-là, le roi et Amon se rendent dans les appartements de la reine et passent un moment très agréable dans la présence d'Esther, appréciant sans doute les mets succulents préparés avec soin, la quantité copieuse de vin. Et le roi répète sa demande. « Alors, que veux-tu, reine Esther? Quelle est ta demande ?» Mais elle renouvelle simplement son invitation pour le lendemain. « Mais revenez demain au roi avec Aman. Et là, je vous répondrai. Pourquoi Esther patiente encore pour dévoiler sa requête? Je ne peux que dire qu'elle est conduite par Dieu. Car entre ces deux festins, plusieurs faits vont avoir lieu, y compris une énorme coïncidence qui va bouleverser l'état actuel des protagonistes de cette histoire. Aman quitte le palais, égayé par le vin, et prend le chemin pour rentrer chez lui. Tout heureux et tout fier d'avoir été invité par la reine, de plus, il était le seul invité avec le roi. Quel privilège! Qu'est-ce que je suis important! Il prend un plaisir immense à voir les autres employés du palais se prosterner devant lui, devant son passage. Mais qui vient gâcher la fête? Qui vient gâcher sa bonne humeur? Ce Mardochée, le juif, l'impertinent, l'insolent. Comment ose-t-il agir de cette façon? Ignorez-moi, le grand Aman. Sa bonne humeur chute. Maintenant, c'est lui qui en chute libre et la colère le remplace. Lorsque nous prenons une trop haute opinion de nous-mêmes, le jour où quelqu'un défie cette fierté, la chute est douloureuse. Plus nous nous élevons, et nous nous complaisons dans une estime de soi malsaine, mal placée, plus l'atterrissage est chaotique. Aman est furieux. Il rentre se consoler auprès de sa femme. Son épouse et ses amis sont conviés pour écouter un discours vantard où il énumère ses richesses prestigieuses et ses privilèges uniques auprès du roi. Et il termine avec cette dernière honneur, le fait d'être invité par la reine dans la seule compagnie du roi. Il a besoin de se rassurer, d'entendre combien il est remarquable et notable, imposant et puissant. Mais cela ne suffit pas. La vue de Mardochée est une aberration pour lui. Et il poursuit avec une diatribe sur la personne tant haïe. Et c'est pourtant que les jours de Mardochée sont comptés. C'est lui l'instigateur du génocide. Mais il ne peut pas attendre la fin de l'année pour le voir disparaître. Vous avez remarqué que certaines personnes ont cette tendance de parler de soi tout le temps. Ou du moins très régulièrement. Suis-je de ces personnes-là? Est-ce que cela vient d'un manque de confiance en moi? Ou est-ce que j'ai besoin d'être toujours valorisée et bien vue par les autres? Ou au contraire, peut-être j'ai une trop haute opinion de moi. Et il faut que les autres sachent combien je suis merveilleuse et formidable. L'un ou l'autre, ce n'est pas ce que Dieu veut. L'apôtre Paul fait allusion dans sa lettre aux chrétiens en Galatie. Si quelqu'un s'imagine être une personne d'exception, alors qu'en fait il n'est rien, il s'abuse lui-même. Notre identité en Dieu est tenue en équilibre et un genre de tension. D'un côté, reconnaître que je ne suis rien devant Dieu, que je ne mérite pas l'amour et la grâce par lesquelles il nous comble est essentiel. Nous sommes, comme dirait Bildad dans sa discussion avec Job, un ver ou une larve. Comment un homme pourrait-il être juste devant Dieu? Comment celui qui naît d'une femme pourrait-il être pur? Même la lune n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Ce sera d'autant moins le cas de l'homme, ce ver, de l'être humain, cette larve. Alors je ne sais pas si vous aimez être des larves, ça ne me dit pas grand-chose. Mais heureusement, de l'autre côté de la balance, nous avons l'extraordinaire privilège d'être appelés enfants de Dieu, du Dieu très haut, et avoir un accès auprès de ce Dieu saint et redoutable. Justement, cette grâce incomparable nous humilie aussi dans la reconnaissance de notre statut de co-héritier avec Christ. Nous sommes des vers, des laves, nous ne sommes rien. Et pourtant, on est élevé au rang de Jésus-Christ par sa grâce imméritée, que nous ne méritons pas. Mais je digresse. Aman ne connaît pas Dieu et ne compte que sur lui-même et son statut de premier ministre. Rappelez-vous, il est très important dans le pays. Sa femme intervient rapidement pour apaiser. On a discuté tout à l'heure avec quelqu'un qu'on est parfois le tampon entre nos maris et le reste du monde. Parfois, celles d'entre vous qui sont mariés, parfois il faut qu'on exerce un certain rôle là-dedans. Et là, c'est sa femme qui intervient pour apaiser cet excès de colère. « Mais rassure-toi, chérie, calme-toi, c'est pas grave. La solution est toute simple. Tu n'as qu'à dresser une potence haute de... » Alors, ça dépend de version. C'est soit 25 mètres ou 15 mètres. De toute façon, c'est très haut. « Pour y pendre Mardoché, tu trouveras bien une raison pour que le roi te donne l'autorisation. Et puis comme ça, tu iras gaiement au festin. » Alors cela nous montre la cruauté de la famille. Pouvoir se rendre à un festin en fredonnant une mélodie joyeuse juste après avoir assassiné quelqu'un, un innocent, il faut le faire. Mais Aman est ravi de cette idée et fait faire la potence. D'un point de vue humain, on pourrait dire qu'Esther a raté sa chance, que le bon moment pour être secourue est passé. Si elle avait parlé plus tôt à Assuérus, elle aurait sauvé la vie de ce pauvre Mardoché qui risque d'être pendu dans les heures à venir avant le deuxième festin. Et de son côté, rassuré par son plan diabolique, Aman se couche, le cœur apaisé, et dort sur ses deux oreilles. Cependant, rappelez-vous, Dieu est à l'œuvre dans les coulisses. Et ce n'est pas le cas pour l'empereur. Dieu fait en sorte qu'il a du mal à s'endormir. Assuérus ne trouve pas le sommeil. Moi, j'ai la chance de bien dormir. Et c'est rare que je dois me lever pour lire, pour essayer de trouver un moyen de m'endormir. Mais le roi, lui, demande qu'on lui lit les annales, c'est-à-dire l'histoire de l'Empire. Alors, soit parce que ça allait tellement ennuyeux que ça allait l'endormir, ou parce qu'il avait envie juste d'entendre un peu d'histoire. Alors, il tombe, par hasard, sur le passage où Mardoché a découvert et déjoué un complot qui visait à prendre la vie de l'empereur. Alors, Assuérus ne se rappelle pas de cet événement, mais reconnaît un acte de loyauté et de bravoure. Donc, il pose la question. Mais c'est très bien, mais de quelle manière a-t-on honoré Mardoché et quelle distinction lui a-t-on accordé pour cela? Il semblerait qu'il y en a eu aucune. Juste à ce moment-là, comme par hasard, Aman se tient dehors. Le roi, toujours en pleine réflexion, le fait entrer. Comment je pourrais récompenser Mardochée? Donc il demande à Aman, que faut-il faire pour un homme que l'empereur désire honorer? Aman atteint le sommet de son orgueil démesuré. Le seul homme que l'empereur peut vouloir honorer est moi. Il se dépêche de détailler tout ce que lui désirerait comme récompense. Mais Dieu a un incroyable sens d'humour et ironie. Aman est tombé dans le panneau. Il vient de suggérer les meilleurs honneurs pour son pire ennemi. De surcroît, il, le grand Aman, doit s'humilier jusqu'à défiler avec Mardochée dans les rues en sollicitant les acclamations et ovations des citadins pour Mardochée, ce juif qu'il aborde. Vous pouvez imaginer la tête d'Aman. Il est dépité. Une fois le devoir accompli, il rentre encore chez lui pour chercher une consolation auprès de sa femme. Mais malheureusement, cette fois-ci, il trouve plutôt une constatation sombre pour son avenir. Son épouse lamente que si Mardochée est juif, Aman ne peut rien contre lui. En plus, Aman va continuer à déchoir devant lui. C'est une intéressante réflexion de la part des Perses, qui eux ne croyaient pas, mais qu'ils avaient reconnu que dans ce peuple juif, il y avait quelque chose de différent. Il y avait leur Dieu qui veillait. Alors, à mon avis, Aman s'est rendu au deuxième festin avec un esprit plutôt préoccupé, même s'il est loin d'imaginer ce qui va se passer par la suite. Le deuxième festin bat son plein, le vin est servi, et l'empereur redemande à Esther quelle est sa requête. Cette fois-ci, Esther va tout dire. Elle demande la vie sauve pour elle et son peuple. Car, comme elle dit, nous avons été livrés pour être massacrés, tués et exterminés. Assuérus a le mémoire court. Il ne se rappelle pas du tout d'avoir donné l'autorité à Aman d'instiguer un génocide. Ou du moins, il ne fait pas le lien. Quel homme qui prend ses décisions sur un coup de tête comme pour Vashti, ou au moment de passer du bon temps avec son conseiller préféré, et juste pour lui faire plaisir, il donne la permission de tuer un peuple. Or, ici, il est confronté par une réalité qui touche à sa reine précieuse, Esther. Mais qui pourrait faire ça et demander à Esther? Et c'est à ce moment-là qu'elle désigne Aman. C'est lui l'auteur de ce complot effrayant. Alors, vous imaginez, Aman ne sait plus où se mettre, comment se défendre. Assuérus sort dans le jardin dans une colère noire et Aman comprend que ça se gâte sérieusement. Sa seule issue, plaider pour sa vie auprès de l'impératrice Esther. Dans son épouvante, dans la panique, il se laisse tomber sur le divan où Esther est couchée pour implorer son intervention. Comme par hasard, c'est à ce moment-là que le roi revient dans la pièce et déduit, en fait à tort, qu'Aman attaque la reine. Son sort est scellé désormais. Et c'est lui qui est pendu sur la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. On pourrait penser que l'histoire s'arrête là. Et effectivement, nous n'avons pas le temps de voir toute la suite, mais on doit se rappeler que les édits du roi sont irrévocables. Et donc aussi aberrant que cela puisse paraître, le massacre va toujours avoir lieu. Le peuple de Dieu n'est pas sorti de l'affaire. Mais Mardochée, une fois sa parenté avec Esther révélée, est nommée à la place d'Aman. Esther redemande une audience avec le roi pour soumettre sa nouvelle requête en pleurs. Elle explique le dilemme. L'édit donnant la permission de tout tuer tous les juifs ne peut être révoqué. Que faire? Alors le roi laisse le soin à Mardochée de rédiger une autre lettre au nom de l'empereur pour contrer celle qui avait été envoyée par Aman. Tous s'activent et des lettres sont écrites et envoyé par courrier sur les meilleurs chevaux possibles pour atteindre les provinces avant la date fatidique. Ces lettres donnaient à leur tour la permission aux Juifs de se regrouper pour se défendre et tuer tous ceux qui les attaqueraient. Dès que la nouvelle est publiée, les Juifs se réjouissent et le jour est décrit comme étant un jour lumineux, un jour de bonheur, de joie et de gloire. La sentence qui planait au-dessus de leur tête est enlevée. La suite du livre d'Esther décrit comment les Juifs ont réagi et même comment les gens se sont fait juifs tant la crainte de Dieu régnait dans le pays. Dieu a sauvé son peuple. Dieu a œuvré dans les coulisses et il s'est servi de deux personnes pour le faire. Alors regardons de plus près ces coïncidences qui ont contribué à cette fin heureuse. Comment Mardoché et Esther sont-ils rentrés dans le plan de Dieu? Comment étaient-ils des outils utiles? Lorsque Aman a choisi la date du massacre, il a utilisé la manière courante de l'époque, le tirage au sort. Mais même là, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu était souverain. La date tombe sur le dernier mois de l'année. Ceci veut dire qu'il y a le temps pour les courriers d'atteindre les extrémités de l'Empire à temps pour contrer le premier édit du roi. La nuit où le roi ne pouvait pas dormir, il a pu entendre comment Mardoché a agi en sa faveur. Mardoché n'avait jamais demandé une récompense. Pour lui, il travaillait pour le roi et était loyal envers lui, malgré peut-être la manière dont agissait le roi qui restait parfois à désirer. Nous voyons la même chose avec Daniel et les trois autres jeunes juifs quelques années auparavant dans le même empire. Également déportés, ils étaient au service de l'empereur de l'époque. Et tant que ce service ne compromettait pas leurs convictions religieuses et le plan de Dieu, ils le servaient fidèlement. Pour Mardoché, c'était pareil. Mais c'est bon à rappeler que Dieu est aussi maître de toute royauté humaine. Un des rois au temps de Daniel a découvert cela à son dépens. À cause de son orgueil, Dieu lui a enlevé le trône en le faisant vivre comme une bête jusqu'à ce qu'il reconnaisse que Dieu est maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui il lui plaît. Dans Romains 13, Paul il a écrit, et rappelons-nous, c'était pendant l'occupation romaine, hein, c'était pas une époque facile, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal, veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité ? Fais le bien, et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Mardoché a compris le principe, même avant que ces versets soient écrits. Faire le bien et tu auras son approbation. Même si cette approbation n'est pas venue tout de suite, Dieu s'est servi de cette bonne attitude de Mardoché pour avancer son plan, sauver son peuple. Si Mardoché avait laissé passer l'occasion d'avertir les autorités de l'assassinat projeté, il n'aurait pas été inscrit dans les annales, et l'histoire aurait été bien différente. Mais rappelez-vous aussi le verset qu'on a lu ce matin, verset 14 du chapitre 4. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Si tu gardes le silence, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Les paroles de Mardoché à Esther. Il avait entièrement confiance en Dieu. Dieu sauverait son peuple d'une manière ou d'une autre. Même si tu ne fais pas ce que tu demandes, le secours et la délivrance viendront d'ailleurs. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. En Job, nous lisons, je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Ou encore, en Ésaïe, souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie, d'une terre lointaine l'homme chargé de réaliser mon projet. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. Dieu est souverain, omnipotent, omniscient. Il peut tout faire sans nous. Et pourtant, il choisit de se servir de nous. Pourquoi? On peut se poser la question, surtout en sachant que nous sommes parfois des piètres outils, rouillés et émoussés. Je crois fermement que Dieu accomplira son plan pour l'humanité, que je participe ou pas. Cela peut me donner une excuse d'attendre sur la touche en regardant d'autres faire. Mais Dieu nous a créés, nous a appelés pour y participer. Alors notre famille est une famille de sportifs. Et en tant que maman, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai assisté au match de foot sous une pluie battante, où j'ai fait le taxi pour emmener l'équipe à un tournoi, ou fait le nécessaire pour que l'équipe soit bien nourrie par le goûter à la fin. Et je ne fais que reproduire ce que mes parents ont fait pour moi. Mais chacun de mes fils a eu, à un moment donné, une blessure qui les empêchait de jouer avec leurs camarades. Ils assistaient en spectateurs. La frustration et déception de ne pas pouvoir participer pleinement au match les minait, qui perdaient ou qui gagnaient. Ils avaient tellement envie d'être au milieu de l'action, et c'est normal. Et on peut dire pareil pour les pros. Quand on voit les équipes de relais, par exemple, aux Olympiques, alors on amène une équipe, mais on amène aussi des réserves, cas où il y a quelqu'un qui se blesse. Mais du coup, elles se réjouissent si l'équipe gagne, mais elles n'ont pas participé. On se réjouit, mais c'est à demi-teinte. Pour nous chrétiens, c'est la même chose. En tout cas, je le pense. Si je me mets sur la touche, Dieu va quand même agir pour accomplir son plan. Rien ne l'arrêtera. Mais ma manque d'obéissance, ou ma désobéissance peut-être, ne va pas l'empêcher d'atteindre le but voulu. Je peux me réjouir quand je vois les résultats de son intervention dans la vie des autres, mais la joie est d'autant plus grande lorsque je sais que j'ai eu un rôle dans cet accomplissement du plan. Lorsque j'ai mis mes dents à son service, que j'ai bataillé dans la prière pour cette personne, que je me suis rendue disponible pour lui. Combien de bénédictions j'ai ratées parce que je n'étais pas assez attentive à son appel. Si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Mais qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Quel outil suis-je? Nous parlons de se rendre disponible pour le Seigneur, pour rentrer dans cette vie qui est remplie d'occasions pour le servir. Rassurez-vous, ce ne sera pas toujours pour sauver un peuple d'un génocide. Mais comme ce matin, nous parlons de ces petits moments journaliers. Nous avons eu des témoignages tout à l'heure. Ces petits moments inattendus où on a pu pratiquer ces œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous. Voulez-vous voir le fruit de votre service? Semez régulièrement, partout. Et un jour, Dieu vous fera la grâce de révéler ce que votre vie a produit dans son plan. On récolte ce que l'on sème. Aman a récolté la mort. Celui qui sème pour satisfaire sa propre nature récoltera ce que produit la nature humaine, la corruption, la mort. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera, lui, ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Esther et Mardoché ont récolté la vie au bon moment. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. On retrouve cette expression au bon moment. Nous n'aurons peut-être pas la récolte demain, ni après-demain, ni même l'année prochaine, ni même dans 10 ans. On ne sait pas. Et peut-être que nous ne verrons pas la récolte de nos œuvres avant qu'on les voit au ciel. Mais ce sera au bon moment, au moment que Dieu a voulu. Alors, quel outil suis-je? Suis-je un outil tout rouillé et inutile, ou suis-je un outil utile? Devant nous, sur vos tables, ici, nous avons des outils. Là, j'ai choisi des outils de jardinage parce que je parlais de semer. Mais chaque outil a une fonction propre à lui. Par exemple, un déplantoir. Comment utilise-t-on cet outil? Comment faire le parallèle avec un service chrétien? Un arrosoir? Une pelle? Il y a plein d'outils différents. Les outils de cuisine. Sur notre table, c'était plutôt les outils de cuisine. Ici, c'est les outils de jardin. Mais chacun ici est un outil pour Dieu. Dieu vous a donné des dons. On a vu ça ce matin. Dieu vous a donné une fonction dans son royaume, ici. Il nous a donné des choses à faire. Et j'aimerais que vous ayez le temps juste de discuter un tout petit peu. Quel outil êtes-vous? Essayez de penser aux outils. Peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un qui fait du jardin. Moi, je n'ai pas du tout hérité les mains vertes de ma maman. Je suis quelqu'un qui va dans le jardin quand il fait beau, comme aujourd'hui. Mais chaque outil a un travail pour le bien de tout le jardin ou pour le bien du plat qu'on peut manger si c'est un outil dans la cuisine. Il n'y a pas d'outil inutile dans le royaume de Dieu. Alors, passez quelques minutes avec le voisin, avec la table entière, comme vous voulez, pour discuter des différents outils. Peut-être prenez les outils qui sont devant vous. Essayez de voir le parallèle que vous pouvez faire avec le service chrétien. Parfois, nous avons l'impression que si ce n'est pas quelque chose de grand et important aux yeux des autres, à quoi je sers finalement? Je ne sers pas à grand-chose. Mais Dieu a dit, chaque rôle est important, quoi qu'il soit. Et j'ai eu aussi une conversation intéressante hier soir, on parlait de littérature, et on discutait de certains écrivains qui sont très forts et qui arrivent à écrire et mettre des petits indices dans leurs livres. Et on a, à la fin, on voit comment toutes ces petites choses qui ont été cousues, qui ont été tissées tout au long du livre, et on voit enfin à la fin, ah oui, je comprends maintenant. Mais c'est ça aussi, on ne voit pas toujours tout de suite pourquoi Dieu me demande de faire ça et à quoi ça sert. Cette bonne œuvre que j'ai accomplie par mon pas de fruits, mais à la fin, on va voir ce que Dieu a accompli à travers moi. Et c'est très important pour vous, femmes, aujourd'hui, de se dire, Dieu m'a choisi. Le rôle qu'il m'a donné, c'est le rôle qui est pour moi. Je suis importante dans son plan. Il a choisi de se servir de moi, malgré le fait qu'il aurait pu choisir des millions d'autres. Aujourd'hui, je suis unique, je suis la seule dans cette circonstance-là. À la caisse, notre ami, désolée, je ne connais pas ton prénom, à la caisse, les deux, et puis pour la maison de la Bible aussi, les deux, c'est, il n'y avait personne d'autre à ce moment-là. S'il n'avait pas parlé, la dame n'aurait jamais connu la Bible tant que telle, parce qu'il n'y avait personne d'autre. C'est vraiment de se dire, il m'a mis là parce que je suis la seule à pouvoir le faire à ce moment-là. Donc, prenez confiance en vous. Semez. Arrosez les graines que d'autres ont semées. Et Dieu va faire croître. C'est vrai que nous ne sentons pas à la hauteur. On n'a pas nécessairement la confiance de dire « je peux », mais on a celui qui peut tout. Alors, dans ce genre de journée, comme je dis, on a une journée similaire à Laval. Et c'est tellement rempli de rencontres, de tout ce que je vous ai dit, de tout ce qu'on a entendu, qu'on a chanté. Et puis, on discute et on prend un café et on s'en va. J'aimerais vous donner 2 minutes de silence. Vous n'avez peut-être pas l'habitude, mais juste pour réfléchir sur ce qu'on vient de dire. De prier. Dieu, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse pour toi? Ouvre mes yeux. Montre-moi ces petits moments dans ma journée où je peux saisir l'occasion de te servir et faire partie de ce grand plan que tu as pour l'humanité. Où je peux juste amener un peu de douceur, de joie, d'amour. Où je peux carrément parler de ma foi, parler de Jésus. Prenez 2 minutes pour être silencieuse devant le Seigneur et puis je terminerai par la prière. Notre Père, nous te remercions pour ces moments dans ta présence. Nous te remercions de ce cadeau immense que tu nous as donné en Jésus-Christ. Cette grâce manifestée dans ton amour pour qu'aujourd'hui nous puissions nous approcher de toi sans crainte, sachant Seigneur que tu répondras, sachant que tu viendras nous secourir au bon moment. Merci pour le don de ton Saint-Esprit qui demeure en nous. Nous avons besoin d'être remplis par lui quotidiennement pour pouvoir te servir, pour pouvoir t'écouter, pour être conduit, pour essayer d'endosser vraiment ce fruit de l'Esprit, Seigneur, dont tu nous parles. Aujourd'hui, tu as voulu nous montrer que nous sommes précieux à tes yeux et que tu as choisi chaque personne ici présente, Seigneur, pour faire partie de ton plan. Aide-nous vraiment à rentrer dans ce que tu as prévu pour chacune de nous. Que ce soit les choses qui sont merveilleuses ou les choses qui sont éprouvantes, tu seras toujours à nos côtés. Que notre quotidienne, Seigneur, te glorifie. Que notre quotidienne soit vraiment des moments où on peut guetter les occasions pour faire des œuvres bonnes que tu as préparées d'avance. Pour venir à l'aide à notre prochain, pour parler de toi. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté et ton amour. Remplis-nous de ton esprit. Au nom du Fils précieux, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.